Il est 10h35 minutes. Philippe Quentin est au bout du fil pour nous parler de basket. Salut Philippe.
Salut Marie-Hélène.
Mais là, je suis sur Internet. Est-ce que tu regardes un peu le match de Félix Auger-Aliassime?
Ben oui, le match de tennis, bien sûr.
On n'arrive pas à avoir d'image. Tu as des images, toi?
Non, j'ai pas d'image.
C'est ça, on regarde les points montés, tu sais.
Ouais, exactement.
Comment tu penses qu'il se débrouille, Félix, là?
Écoute, je vais aller voir son dernier
Là, je pense
résultat.
C'est 6-5, le deuxième
non,
set.
Il a perdu le premier set, ça. Là,
il mène le deuxième.
Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, il mène 6-5, effectivement. Alors, écoute, ce qu'il accomplit à l'heure actuelle, c'est quand même exceptionnel. Il faut rappeler que c'est un jeune gars de 18 ans. Il aura 19 ans au mois d'août. Il a atteint des niveaux pour son âge qui font énormément d'impact au niveau de tous les analystes de tennis. Quand tu écoutes des gars comme Patrick McEnroe, le frère de John. Et d'autres aussi, que ce soit Brad Gilbert ou tous ceux qui commente régulièrement ce sport-là. Tout le monde le voit comme une future grande vedette, mais plus que ça, comme un futur champion de Grand Chelem. Et je regarde la manière dont il mène sa carrière à l'heure actuelle et je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec Denis Shapovalov, qui est l'autre Canadien sur la lancée, un an de plus vieux. Mais je regarde un peu comment Shapovalov, comment ça va là, depuis un an. C'est plus difficile. Évidemment, il va très bien. Il est encore dans les 30 meilleurs au monde. Mais il y a eu plusieurs changements d'entraîneur au cours des derniers mois. Tu te souviens, c'était Martin Laurendeau qui était son entraîneur au moment de son passage chez les professionnels. Il était à ce moment-là 200e meilleur joueur au monde. Avec Martin Laurendeau, il est devenu le 27e. Mais là, il a dit, ah non, faut que je change, ça m'en prend un pour aller encore plus haut. Alors là, il a changé, il est allé avec un autre entraîneur, un Canadien, Rob Steckel, et ça n'a pas duré un an, ça a duré 6 ou 7 mois, puis là, il y a eu un autre changement, puis là, il est retourné vers son entraîneur junior. Et tu vois, ce manque de stabilité-là, c'est ce qui a fait énormément mal, à mon avis, à Eugénie Bouchard, qui a changé d'entraîneur, qui a changé d'agent continuellement. Dans le sport professionnel, pour un jeune athlète, avoir de la stabilité, avoir un entourage qui est là, qui va être capable de bien comprendre l'athlète. L'athlète va bien les comprendre. Ils vont développer une relation de confiance, de complicité. C'est essentiel pour le développement. Et quand tu changes continuellement ton entourage, tu es obligé de recommencer à zéro à chaque fois. L'entraîneur doit te connaître, puis apprendre à te connaître et vice-versa. Puis ça, il y a une période de flottement. Puis ça ne veut pas dire non plus que la mayonnaise va prendre. T'sais, parfois, ça s'entend plus ou moins bien. Puis là, ça conduit à un autre changement. Alors, tu vois, je ne sais pas, Shapovalov, comment ça va virer. Je pense qu'il y a tellement d'atouts, puis c'est tellement un joueur excitant. Puis je pense que sa carrière, il devrait avoir une grande carrière. Mais je regarde la période qu'il traverse à l'heure actuelle, puis je ne trouve pas ça très convaincant. Et tu le vois aussi sur le terrain. Ses émotions, c'est bien de montrer des émotions sur le terrain, mais c'est rendu qu'il rate un coup, puis c'est comme si c'était la fin du monde. Je trouve que ça donne des armes à l'adversaire. Parce que là, l'adversaire sait qu'il est ébranlé un peu, puis c'est peut-être pas pour rien là, qu'il y a des ennuis ces temps-ci à se rendre de plus loin dans les tournois. Alors, tu mets ça en opposition avec Félix Auger-Aliassime, qui est un sphinx sur le terrain. Oui, des fois, il va avoir un coup de colère, c'est sûr, là, quand il rate une balle facile, qu'il l'envoie hors ligne. Mais de façon générale, il maîtrise ses émotions. Puis il en a encore parlé après un de ses matchs cette semaine. Il dit que tout à coup, il est devenu très énervé, très choqué contre lui, puis il a dit il faut que j'arrête ça tout de suite. Là. Il faut que je reprenne contenance, puis il a effectivement gagné son match.
Philippe,
il garde le même entraîneur aussi, alors ça, c'est bon.
On t'a appelé pour parler de basket, mais c'est fun de t'entendre parler de tennis, mais il y a un beau parallèle à faire parce que c'est cette fierté qu'on éprouve quand le Canada se démarque.
Oui.
Peu importe dans le domaine, que ce soit dans le domaine du divertissement, dans le domaine du sport. Et puis là, il y a quelques jours, cette victoire des Raptors, c'est venu comme ébranler tout le pays. Et on se demande quelles seront les répercussions et quel sera l'impact sur le développement du basket au Canada et au Québec, ultimement, aussi.
Oui, tout à fait. Marie-Hélène, moi, je pense qu'on va parler dans les années futures, dans 10 ans, là, quand on prendra du recul, puis qu'on analysera le championnat des Raptors en 2019, on dira qu'il y aura eu l'avant-championnat puis l'après-championnat. Parce que ce qui vient de se passer, c'est énorme. D'abord, il y a partout au Canada et au Québec et à Montréal des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui viennent de découvrir ce sport-là. Bien sûr, tout le monde connaît le basket, là, mais vraiment connaître la NBA, connaître le basketball professionnel, prendre plaisir à regarder un match, je pense que les cotes d'écoute le démontrent. Là, à RDS, les premiers matchs des séries, c'était 30 000 personnes au maximum par match. Puis en finale, là, la dernière rencontre, il y a eu au-delà de 500 000 personnes avec une pointe pas loin de 600 000. Alors, ça donne tout de suite l'illustration de combien ce sport-là s'est bâti un engouement autour des Raptors, autour du basket qui est absolument phénoménal. Alors ça, cet impact-là, bien sûr, sur les jeunes aussi, il est énorme. Tout à coup, le basket devient un sport in, un sport le fun à pratiquer. Et moi, je pense que tout ça, ça va continuer et même ça va s'accélérer parce que le train est déjà lancé. Depuis quelques années, et ça, c'est beaucoup dû à l'arrivée des Raptors à Toronto, la région de Toronto, et spécialement la ville de Mississauga, qui est juste en banlieue de Toronto, produit des joueurs de basketball de calibre exceptionnel. Il y en a un autre qui vient de cette région-là, qui s'appelle R.J. Barrett, qui devrait être, là, dans le moment, on parle du troisième choix au prochain repêchage de la NBA, là, dans quelques jours. Et avant lui, il y a eu Andrew Wiggins, qui est un Torontois aussi, qui a été choisi au premier rang. Donc, ils sont en train de produire des joueurs de basket de premier plan. L'impact de ça, et ça, c'est très important de ne pas l'oublier, c'est que ça va faire en sorte que s'ils acceptent de jouer pour l'équipe nationale du Canada, ce qui potentiellement est le Canada pourrait se retrouver avec une équipe de premier plan sur la scène internationale aux Jeux olympiques. Et ça, les Jeux olympiques, c'est une caisse de résonance extraordinaire pour le sport. Souviens-toi, oui, on aime la Ligue nationale de hockey, mais personne n'a oublié le but en or de Sidney Crosby à Vancouver aux Jeux olympiques de 2010 pour donner la médaille d'or au Canada. Alors, si un phénomène semblable se produit au basket, puis que le Canada vient aux Jeux olympiques avec des équipes de premier plan à Tokyo en 2020, mais probablement encore plus à Paris en 2024, quand les jeunes dont je viens de mentionner les noms auront acquis encore plus de maturité, d'expérience et seront rendus à 25-26 ans, ça va faire en sorte que l'équipe de basket risque d'être dominante et on pourrait se retrouver en lutte avec les États-Unis pour la médaille d'or. C'est pas interdit de penser ça. Et ça aurait un impact majeur, je pense, sur le développement du sport.
Bien, écoute, ça va être à suivre. Le défilé a lieu demain. Ça débute à 10 heures, hein, à Toronto.
Oui, c'est ça. Puis ils ont décidé les joueurs, après leur victoire à Oakland, ils sont partis pour Las Vegas, aller fêter ça à Las Vegas. Et là, l'idée, c'était de passer une journée à Las Vegas et de revenir hier soir à Toronto. Finalement, ils ont dit, on va rester une journée de plus à Las Vegas. Alors, ils reviennent aujourd'hui.
Bon, on va les laisser fêter ça.
Ils fêtent à Toronto demain.
Merci beaucoup, Philippe Quentin.
Salut.
Bonne fin de journée. Il est 10h42 minutes au retour de la pause. Prenez des notes parce qu'on va vous cuisiner avec Max Lavoie de Barbecue Québec le hamburger le plus cochon que vous aurez jamais vu.